Alors bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va parler série.
La série inratable de la rentrée.
Difficile d'éviter les spoilers. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi.
Carrément insupportable, son personnage.
Je l'ai revu il y a même pas très longtemps.
Je vais regarder les épisodes là. Je t'en doutais par rapport à l'épisode précédent.
Lost.
J'ai pas vu, mais je sais. On va commencer ce deuxième segment de la soirée sur un créateur, un producteur, un scénariste, un compositeur.
Réalisateur.
Que tout le monde connaît, réalisateur également.
Non, mais non. Mais non, c'est l'autre.
J.J. Abrams, qui est au générique de 762 séries depuis le début des années 2000.
Et des bonnes en plus.
Oui. Pas toutes, justement.
Presque.
On ne parlera pas de J.J. Abrams, on parlera plutôt de son œuvre en général. On va faire comme sa carrière sur l'univers du petit écran, en fait, il est là sans être là. Donc on va parler de
en
lui
fait,
sans
une
parler de lui.
Il est mort en vrai.
Voilà. Depuis le début.
Depuis le début, il est mort.
Voilà. On va faire ce segment en trois axes. Le premier, tout simplement, on va parler de ses créations, vraiment ses créations les plus réussies. Donc j'ai envie de parler de Felicity, de Lost, qu'il a co-créé.
Oui, surtout.
De Fringe.
Oui.
Et d'Alias. Donc,
oui, ça me semble logique.
Et pas de Beer Cover, je suis super étonnant.
Voilà,
ni Revolution, ni pas de Revolution
pas...
non plus.
Non, mais il l'a pas créé Revolution.
Ouais. Non, c'est vrai.
C'était Kripke justement.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Exactement.
Il était producteur dessus.
Oui.
Ça sentait du coup.
Mais du coup, quels sont vos avis sur si vous êtes d'accord déjà avec moi?
Oui, sur les.
De toute façon, son autre création, co-création, c'est Undercover, c'est bon. On va être tous d'accord sur le fait que c'est un ratage total.
Sauf pour le casting.
Bah voilà. Sauf
voilà. Il était un peu, voilà, il était un peu en avance sur son temps. Donc. Parlez-moi de
moi
ces séries.
Ce qui est assez fort, c'est que sur l'ensemble des séries, c'est souvent des rôles féminins très forts. Et je trouve qu'il a, de que ce soit en teen avec Felicity, avec Alias, où il avait dit d'ailleurs qu'il voulait faire une série comme Felicity, mais au lieu en plus, elle était espionne.
Elle était moins frisée.
Elle était moins frisée. Fringe, c'est quand même Olivia Dunham. Et, enfin, j'ai perdu son nom d'actrice. Aidez-moi. Anatorv. Qui est juste vraiment formidable.
Donc, et dans Lost, il y a aussi
et dans
des
Lost, il y a beaucoup de personnages féminins. Evangeline Lilly.
Même si elle était carrément insupportable, son personnage.
Oui, alors après, Lost, c'est
non,
vraiment chorale. Quoi. C'est,
bon,
Lost, c'est vraiment une série chorale. Mais
sur les trois... C'est clair qu'elle n'était pas servie.
Voilà. Sur les trois premières séries, c'est quand même des rôles féminins hyper forts. Et puis après, il y a un côté. Alors, pas sur Felicity, mais après, ce sera beaucoup du concept. Du concept très fort, et c'est ça, sa marque de fabrique, c'est
le concept.
Voilà, oui, mais pour raconter des histoires qui, au final, sont...
plutôt banales.
Enfin, après, d'ailleurs, comme beaucoup, comme son héros absolu qui est Steven Spielberg, hein, donc
oui.
Voilà, c'est pas... bon, après, je pense pouvoir dire que Spielberg est un peu plus doué, mais Abrams, oui, bah... Abrams
fait il y en a un qui a 30 ans de plus aussi, donc on va voir...
Oui, mais enfin, au même âge, déjà, il avait fait pas mal de choses en derrière.
Alors, sauf que Spielberg à la télé, c'est moins ça. Hein.
Oui.
Sauf que le twist...
Sauf qu'il a jamais créé de série, quoi.
Non, le twist, c'est qu'on va apprendre que Spielberg s'est inspiré de J.J. Abrams au début de sa carrière.
Absolument, c'est ça. Que J.J. Abrams a 150 ans.
Voilà.
En fait, on parle encore des voyages dans le temps, c'est ça. Ils ont joué dans Timeless.
Toujours.
Ce qui est quand même assez fort, c'est que finalement, quand on y pense, et j'y avais pas pensé tant que ça jusqu'ici, en tout cas pour les gens de ma génération, ma sériephilie a été marquée par les séries d'Abrams. Quoi. C'est-à-dire que Felicity, alors j'ai pas regardé autant Felicity que j'ai regardé Dawson, j'avoue. Parce
normal.
Que
c'était moins Felicity, diffusé, ça a été moins diffusé en France notamment.
Oui, mais c'était diffusé sur TF1 quand même.
Juste, hein, même 15 horaires, je crois.
C'était peut-être un peu plus adulte aussi.
C'était plus adulte, mais ça m'a quand même donné furieusement envie d'aller faire mes études à New York. Bon,
et d'avoir les cheveux frisés.
Je suis allé de l'autre côté des États-Unis, mais ouais. D'ailleurs, les discussions qu'il y a eu sur le moment où il y a eu la coupe de cheveux, où elle s'est coupée ses cheveux, elle a fait les cheveux courts, ça a été absolument phénoménal.
Un peu à l'instar de Rachel dans Friends, où ça a été une mode assez incroyable.
Alors, par contre, je sais pas. S'il y a beaucoup de filles qui ont osé se faire la coupe de Felicity,
non, au contraire, je pense que les gens. Non, au contraire, parce qu'à l'inverse, ils aimaient pas du tout la coupe cheveux courts.
Bah oui, c'est ça, ça a été un. Et ensuite, quand t'avances, Alias, ça a marqué, c'était vraiment la série d'action, la série sexy.
C'est même pour ça qu'il a été embauché sur Mission Impossible 3. Hein.
Ouais.
Tom Cruise allait le chercher en disant je veux voir Alias au cinéma, quoi. Ouais. C'était le même.
Surtout après Mission Impossible 2.
Je parlerai pas de Lost derrière. Le fait est que par contre. aussi bien soit Fringe, elle a pas marqué son temps comme a pu le faire Lost.
Non.
Et depuis, dommage, en fait, il y a pas eu grand chose.
Est-ce que parce que elle passe un peu derrière X-Files?
Bah ouais, mais je trouve qu'elle
même
renouvelle
si elle
le
s'en
genre.
Détache,
je trouve qu'elle renouvelle un peu et avec moi j'adore, j'aime les deux séries et je trouve que Fringe a un côté X-Files commence à avoir un côté très 90 ou Fringe a un côté vraiment plus récent, plus sympathique là-dessus, je trouve. Donc moi Fringe, c'est vraiment, c'est vrai que je trouve qu'elle est un peu moins citée que les autres. Je trouve vraiment c'est bouclé, il y a tout un
truc
qui me plaît.
C'est pour ça qu'on l'aime aussi, c'est parce qu'elle est moins citée que
peut-être.
Les autres.
Après, je pense que la force d'Abrahams, après, c'est aussi de savoir s'entourer, de savoir faire des castings, de savoir trouver des auteurs. Alors effectivement, il a travaillé avec certains, avec Lindelof, il a une bande qui travaille souvent avec lui. Et je trouve que c'est un mec qui sait s'entourer et est porteur d'un projet, même si parfois il est à l'origine, mais il sait s'entourer, et je trouve que c'est assez fort dans le milieu de la télé.
Tu disais, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur Fringe, tu disais que c'était bouclé.
Oui.
On va dire surtout les premières saisons.
Ah, moi j'aime les 5. Moi je trouve que les 5.
Surtout la première saison.
Non,
parce
voilà, qu'après, Et bah, moi justement, c'est limite celle que j'aime le moins parce que justement, c'est des cas bouclés.
Alors oui, je parlais de la globalité de la série.
Ah, ok.
Je parlais, c'est ça, pardon. Oui, la première saison, c'est un peu procédural, c'est le monstre de la semaine. Après, il va dépasser ça avec une mythologie. C'est aussi une marque c'est lui qui a presque réintroduit à ce point-là la notion de mythologie. Et dans pas mal de projets où il est, même s'il n'est pas co-créateur, il y a des notions de mythologie de manière très importante. Mais voilà, Lost, c'est quand même le retour du feuilleton, quoi, à fond. Mais c'est impossible de prendre Lost en cours, quoi.
Est-ce qu'on peut lui imputer le succès de Lost à lui ou plus à Carson et Lindelof?
Clairement.
Parce que
s'il n'avait pas été là, je pense pas que le pilote de Lost aurait
oui,
été la même.
Mais le point commun entre toutes ces créations, avec peut-être un bémol pour Felicity, c'est qu'il part assez tôt.
Oui.
Je
sens qu'il va revenir durablement à la télé, qu'il va se reposer, faire une série où il va rester. Je le sens. Mais ceci étant dit, ce qui a fait sa fortune et sa réussite, c'est d'être un super producteur avant toute chose. Donc pourquoi il le serait pas la télévision aussi, quoi.
C'est un porteur de projet, quoi.
Ça va être mon deuxième point parce que on peut voir qu'il a arrêté d'écrire avec Undercovers en 2010. Ça fait 6 ans qu'il a arrêté d'écrire. Ouais.
À
la télé, bien sûr, à la télé. Et du coup, c'est un nom quand même. On continue de le voir partout.
Parce que c'est une marque.
Voilà, c'est une marque. Il produit nombreuses séries, que ce soit des réussites comme Person of Interest par Jonathan Nolan, comme Westworld par Jonathan Nolan. Et à côté de ça, il y a
22-11-63 qu'on oublie.
Voilà,
Ourodiz.
Je suis pas d'accord. Je trouve ça plutôt réussi. Mais bon.
Je préfère le roman quand même. Hein, on va pas se mentir.
Oui, non, mais
je l'ai pas lu.
Ce que tu es en train de dire, c'est que J.J. Abrams est devenu une marque. Il a fait. Il était à l'origine de Lost, qui est au panthéon des séries télé. Mais en fait, il a jamais énormément écrit, ce mec-là, même sur Lost. Donc on peut pas vraiment lui reprocher d'écrire, comme disait Pierre, je crois. C'est un super producteur, donc on peut lui reprocher éventuellement de pas choisir des bons projets, mais d'écrire.
Non,
c'est pas un Joss Whedon, quoi.
On lui reproche pas d'écrire. Mon point, c'était
ses séries à la trace.
Il avait arrêté d'écrire en 2010 et il s'est concentré sur la production
je pense
à la
même
télé.
Qu'il s'est fait embarquer par la production.
C'est possible.
Je pense que c'est un gars qui a été dépassé par son succès et qui a eu tellement d'opportunités. C'était un nous, quoi. C'était un gars qui était un fan de pop culture
et
tout.
C'est un mec qui faisait des films en Super 8.
Et on lui a filé les clés d'Hollywood. Et le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il refuse? Il peut pas refuser. On lui propose Star Wars et tout. Donc il y a un moment, il dit oui et il a plus le temps de faire
En gros, il est devenu monsieur High Concept. On lui propose plein de projets. Viable ou non, comme Alcatraz ou Belief, par exemple, qui ont été.
Son nom est puissant.
Voilà.
Le gars, il dit je vais pouvoir faire fonctionner, au moins faire lancer une série sur mon propre nom, sur mon seul nom. Alors, le truc, c'est qu'il aura peut-être dû se retenir parfois, mais en tout cas, il avait ce pouvoir-là, et c'est vrai que c'est un pouvoir qui est certainement
grisant. J'ai l'impression que son nom a quand même émergé depuis Lost.
Avant,
Alias.
On va pas se mentir,
ouais,
ça serait Alias.
Est-ce qu'on disait vraiment J.J. Abrams
S'il n'avait pas fait Alias, il serait jamais venu sur Lost.
Mais ce que disait Marion, c'est aujourd'hui, pour une chaîne, avoir une série signée J.J. Abrams, quoi qu'il fasse dessus, les chaînes sont contentes. Ça fait bien sur le.
Même les journalistes sont contents. Oui. C'est-à-dire que pour vendre des séries, ça nous arrive de mettre dans le titre la série développée, supervisée. Bref, J.J. Abrams.
Ça fait bien.
J.J. Abrams a servi le café.
Voilà, ça restera la série de J.J. Abrams.
Ça fait bien, mais ça ne garantit pas le succès.
Non.
Parce que nombreuses de ses productions ont été des échecs.
Oui. Mais oui, quand il a commencé ça... à trop en faire, justement.
Bah, ça arrive pas. Spielberg, c'est la même chose.
Spielberg,
c'est
bien sûr.
Ryan Smash, Murphy, c'était lui le producteur.
Je pense qu'il y a, il y a eu pas mal de...
Bah, en même temps, sauf The Xenakis Survivor.
Il y a pas mal de créateurs de séries. Après, ils peuvent pas tout réussir à tous les coups. Oui. Mais je maintiens... alors, il a écrit... il écrivait... Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise le concept narratif. Faut savoir qu'il était script doctor quand il était tout jeune. Il a tellement corrigé le script d'Armageddon qu'il est... co-scénariste dessus, alors qu'au départ il l'était pas, mais il a corrigé le script au fur et à mesure.
Ah oui, c'est lui qui a fait
de
ça.
Armageddon de Michael Bay. Mais donc faut savoir, avec tous les défauts que ça a, c'est quelqu'un qui a une maîtrise, et il suffit de regarder Alias pour savoir ça, qui a une maîtrise des codes narratifs, pas forcément de l'écriture, ce que tu disais sur Whedon, c'est pas forcément un dialoguiste, c'est pas forcément. C'est un mec qui va, ça va être la construction narrative qui va être puissante.
Je pense qu'il a besoin d'un poète avec lui, et oui. C'est pour ça que son association avec un mec comme Lindelof marche
brillant.
Il a besoin de quelqu'un qui est capable. Je pense que c'est un technicien, ça veut pas dire qu'il a pas d'univers. Mais il a besoin, je pense, d'être accompagné par quelqu'un qui a un univers très fort pour que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que sur Lost, c'est surtout la série de Hughes et Lindelof. Quoi. Oui, voilà. Ouais. Il a lancé le truc.
Mais je pense qu'il a amené un calibrage positif. C'est-à-dire qu'il a amené une construction qui est efficace et qui fait qu'on reste et qui fait que ça ne se barre pas dans tous les sens.
Lost
qui
est... Ça ne barre pas dans tous les sens.
Moi, je pense ouais. Vraiment. Mais...
Pour moi, ce n'est même pas une construction, c'est une déconstruction, en fait. Ce mec, il est à l'origine de tous les flashbacks, les flash-forwards.
Bah oui.
Et même là, encore, avec Westworld, il déconstruit ce qui se passe.
Mais c'est ce qui fait la série aussi.
Les séries télé.
Westworld.
Alors, Westworld. Effectivement par la
structure
la narration narrative. Et comment complètement la renverser et tenter des nouvelles choses.
Complètement, et on a vu Lindelof tout seul, enfin j'exagère un peu, mais tout seul au cinéma, il se paume vite, il peut se perdre un peu.
Tu parles de Prometheus là
par exemple, mais voilà, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'entoure. Et finalement, alors pour le cinéma, pour la télé, j'avoue que je sais pas, mais pour le cinéma, son œuvre la plus personnelle, c'est Super 8, qui raconte son enfance à lui.
Qui raconte Spielberg.
mais effectivement, qui raconte ses produits par Spielberg. Donc voilà, mais je pense que l'image de Pierre est intéressante. C'est vrai que c'est un mec qui était parti au départ comme un espèce de geek, de nerd, et qui à un moment, à qui on a tout fait. Enfin, quand Kathleen Kennedy l'appelle en disant tu vas faire le prochain Star Wars, effectivement, il dit oui.
Bah, comment tu veux dire refuser, non quoi.
Qui refuse Star Wars
hein. Non.
Merde.
J'ai envie un peu de m'éloigner de d'Abrams ouais. Tout en restant sur lui, bon, évidemment.
C'est très érotique.
Ouh.
On va mettre Westworld de côté. Quelles sont pour vous ces productions les mieux réussies? Que ce soit qu'elles soient annulées rapidement, évidemment, ou que ce soit des succès.
Pas dire Lost quand même.
Non, ces productions. Je parle pas de ces créations. Je parle de ces productions vraiment. Oui, ils gèrent seulement la production.
Ouais, est-ce que t'as une liste?
J'ai une liste, évidemment.
Moi, je miserais sur Person of Interest quand même. Hein.
Voilà.
C'est
alors,
l'une de ces plus récentes.
Ouais.
Il y a What About Brian.
Ah ouais, non.
On va trop loin.
Voilà, ouais. Sur un mec qui est célibataire et qui est
un mec de 7 à la maison.
Oui, voilà, de 7 à la maison, qui est poussé par tous ses amis à trouver la femme de sa vie. Bon, ça a fait 2 saisons, voilà, ça, ouais. ça a pas trouvé son public.
C'était bien.
Six Degrees, ouais, qui est une saison de 13 épisodes, dont 5 qui n'ont pas été diffusés, donc c'était raté. C'est sur la théorie des
pourtant, des pourtant c'est marrant, moi je te coupe 20 secondes, c'est marrant, c'est que c'est une époque où il était le pape de tout, et de savoir que même en étant... Avec la puissance
c'était
qu'il avait.
Avant qu'il soit le pape de tout, Six Degrees.
C'était entre. Oui, c'était Alias un peu au début, ouais.
C'était entre Alias et Lost, non?
Non, c'était après.
Après Felicity.
Après Lost, ouais.
Après Lost.
Ah ouais, donc le mec, à un moment, on arrive à lui dire non.
Bah, si c'est le public qui lui a dit non, hein, oui, voilà, c'est pourri, je crois que ça.
Il y a eu Person of Interest, évidemment. Je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que.
C'est une réussite.
En plus d'être une réussite, au niveau de. De la longévité, c'est une réussite au niveau de la qualité.
Mais en 5 saisons, c'est bien en général. Quand Abraham fait du 5 saisons, ça marche. Alors, comme tu disais tout à l'heure,
je suis d'accord. Ouais.
Enfin, Alias... La dernière saison d'Alias.
Alias après la.
Alias. On va se calmer quand même.
Au contraire, Alias est devenu bien quand il a arrêté d'écrire des scénarios, c'est-à-dire en 4e et 5e saison.
Ah non. Ah non. Alias, c'est. Alias, c'est parti en live total au milieu de la saison 3.
Non, mais bon, il y a toujours Jennifer Garner et ses coupes de cheveux. Elle, par contre, très variée, à l'inverse de Félicité. On en a eu deux. Jennifer Garner, tous les épisodes, elle change de coupe de cheveux.
Et là, on fait partie du personnage quand même.
On va passer à un quatuor absolument magnifique, Alcatraz.
Non.
Voilà.
J'y ai cru 10 minutes quand même.
Ouais, voilà. Au début, le concept est bon.
Il y avait un beau casting.
Et c'est tout.
Il y avait Orly.
Ouais, il y avait Sam Neill qui jouait le méchant comme tout le temps, quoi.
Le pauvre.
Il y a eu Believe qui s'est rétamé.
Oh la vache. C'est vrai, j'ai pas dépassé le pilote. Sympa.
Le pilote était.
C'était Quaron.
Non, c'était pas sympa.
C'était Quaron.
C'était Quaron aussi, ouais.
Ah, c'était Quaron, t'imagines la paire là normalement.
Qui s'est vautré, voilà. Les noms sont beaux sur le papier. Ça a pas marché.
La réalisation du pilote est juste magnifique.
Personne n'y a cru.
qui a marché un peu plus, mais qui était horrible, c'était Revolution.
Ah. Non, mais le cast était raté, là.
Mais pareil, sur l'idée, oui, c'était pas trop mal.
L'idée, c'était pas trop mal.
Concept, en fait, mais...
Mais le résultat, c'était pas à la hauteur.
Dû être beaucoup, ils auraient dû faire un truc hyper réaliste. Et en fait, ils sont partis dans des délires de samouraï. C'était pas ça, quoi.
Et derrière, c'était Kripke aussi. Qui, oui. était derrière. Donc,
non, mais tu les as vus un peu en post-apo, en fait, avec le monde dévasté. T'as vu comment elles sont maquillées. Tu te dis, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est...
Et enfin.
Puis avec Gus Fring, ça cassait tout, quoi.
Oui, moi, on se demandait ce qu'il faisait là. Et enfin, une que j'ai eu un petit coup de cœur pour elle, même si elle a fait que 13 épisodes, c'est Almost Human.
Ah, c'était Abraham qui était.
Oui, oui, ouais.
Et oui, Bad Robot.
Pas moi. Oui, moi non plus, j'ai pas eu de coup de cœur du coup pour cette série.
Ouais. Non. C'est pareil, je pense que ça arrive.
Mais vous avez le droit de pas avoir. Mais justement, pourquoi pour vous, parce qu'elle traite au final des mêmes thématiques que.
Juste avant, c'était quand même vachement.
Juste avant, non.
Human, moi, ma.
Je sais pas.
Moi, c'est le côté procédural aussi.
D'accord. Donc, même les enjeux ou la réflexion sur. Sur l'humain, sur la robotique, ça vous a pas du tout.
Il faut mieux regarder Westworld, quoi.
Beaucoup trop de temps perdu sur toutes des enquêtes dont se contrefoutaient.
C'est ça, en fait, voilà. C'est ça, clairement. Ouais, c'est le cas par épisode, que ça soit vraiment du procédural ou sous d'autres formes.
Donc, est-ce que c'est l'une des raisons de l'échec, en fait, comme ça ou Alcatraz?
Je pense qu'ils arrivent au bout aussi. Almost Human, c'est arrivé à un moment, une saturation de. J'exagère presque, mais de. On a vu avoir des produits un peu comme ça, similaires, ça se faisait un peu partout.
Oui, c'était la fin de la tendance sur les robots, la robotique.
Voilà, et alors ça avec le procédural où maintenant ça se fait plus, sauf vraiment à faire ça complètement et tout le temps. Mais sinon, on attend plus ça de créateurs comme ça, je pense, presque.
Qu'est-ce qu'on attend
effectivement, qu'il nous refasse des choses. Enfin, là, il est que producteur sur Westworld, mais c'est des choses de ce type-là, finalement.
Bah, on attend du neuf, en fait, parce qu'il nous a quand même donné beaucoup de neuf. J.J. Abrams, il a révolutionné un peu le monde des séries, quand même, avec Lost, avec tout ce qui s'est suivi derrière. Et en fait, là, bah, moi, ce que j'attends, c'est que c'est très bien, c'est qu'il fasse une série comme Westworld, qui pose les questions sur...
Une manière assez novatrice, quoi.
Pardon. Qui pose la question de la narration après déjà tout ce qu'on a vécu dans le monde des séries, en fait, qui essaye de... Moi, je veux que J.J. Abrams, il nous donne le ton, qu'il nous montre une série qui va nous dire, bah voilà, l'avenir des séries, il est là.
Sauf que le problème de Westworld, il le dit lui-même, c'est que c'est pas du tout sa série, quoi.
Voilà.
Il a aidé le truc, et maintenant, c'est vraiment celle du couple de Jonathan Nolan et sa femme Lisa Joy, et ils font leur truc, et ils se débrouillent. Mais moi, ce que je trouve vraiment... Mais c'est ce qui a fait son succès, mais c'est un gars qui, depuis 10 ans, en fait, ne fait pas des choses à lui. C'est-à-dire que soit il fait des remakes, soit il continue des franchises, soit il file de la thune ou il donne son nom à des gens qui ont des projets.
Ou soit il fait le générique.
Maintenant, et il le dit lui-même, il dit, il y a un moment, il va falloir que je prenne du recul et que je me mette dans ma bulle et que je dise à tout le monde, je suis plus dispo, je coupe mon téléphone et je commence à réécrire, parce que sinon, on reverra jamais une série écrite par Abrams et il pourra jamais. Évidemment, j'espère pour lui que ce qu'il va écrire sera réussi, parce que s'il se ramasse, il va être mal.
Comme je disais avant, je sais plus si Marion était toujours là, mais il a plus écrit depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas écrit. Et son dernier scénario, c'était Undercovers.
Oui, mais en télé.
Pour faire un meilleur retour.
Oui, là, mais en télé, après, le problème, c'est qu'en ce moment, il est quand même très pris sur ce qu'il fait au cinéma. Il porte deux franchises tout seul.
Il
est plus tout seul parce qu'il s'éloigne. Et je pense que ce que dit Pierre, à un moment, il va lâcher un peu. Il va, ce qu'il fait déjà, mais voilà, il a relancé Star Wars comme on a vu. Il a relancé Star Trek. Il l'a lâché. Enfin, il l'a lâché dans le sens où il prend ses distances.
Et je pense qu'effectivement, avec Star Wars aussi.
Mais là, par contre, ce que je parlais de Super 8, c'est une exception. Ça veut dire que ça lui reprochait beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de choses hyper personnelles, à part peut-être Félicité finalement.
Ouais. Ouais, puis c'est vrai que il a rien fait de personnel sur le câble, parce qu'on peut dire 2263 ou Westworld, mais c'est pas ces séries-là.
Donc est-ce qu'on l'attend sur le câble?
Honnêtement, je pense que J.J. Abrams, il écrit une série, mais genre même il a deux lignes de pitch qu'il a écrit bourré un soir. Il y a toutes les chaînes d'Amérique, de HBO à Showtime à tout le monde qui fait oui, on prend. Alors après, peut-être qu'ils vont lui demander un petit pilote, et encore, il va aller où? Il va aller chez Hulu, je sais pas quoi. Ils vont lui filer une saison complète ou Amazon, et on n'en parle plus, quoi.
Est-ce que il peut être l'un des prochains gros noms de Netflix, par exemple?
Moi, j'espère pas.
Ça peut arriver, on sait pas, mais je pense que sur Netflix, tout peut arriver. Hein.
Après, je trouverais ça
le meilleur comme le pire, c'est ça.
Je trouverais ça hyper bien qu'un mec qui a vraiment fait partie de l'âge d'or des grandes chaînes américaines de la fin des années 90, début 2000, ait le courage d'aller chez NBC ou de faire une série grand public.
Ah,
en fait.
Mais faut qu'NBC. Je crois que tu voulais qu'il aille sur Netflix.
Il faut qu'NBC suive aussi et qu'il puisse proposer un projet.
Un Revolution.
NBC prennent des risques. Hein. Ils ont ces dernières années fait plusieurs séries qui étaient risquées.
Pourquoi pas?
Voilà, est-ce qu'on attend de lui des risques, justement, ou est-ce qu'on attend de lui de revenir, comme sur Felicity, sur un truc plus familial, plus intime?
Ce serait drôle de le voir faire un truc où il...
Après,
je... Non, mais c'est pas de science-fiction.
Ouais, voilà, justement, après tous ces blockbusters, que ce soit Lost ou Star Wars au cinéma, est-ce que ce serait pas... intéressant de le revoir justement
ce
dans
un film plus intimiste.
Là, ce serait inattendu.
En fait, ça dépendrait de l'écriture surtout, je pense.
Oui. Évidemment.
Mais J.J. Abrams, effectivement, là, on peut se poser la question, dans le monde des séries, il sait toujours très bien s'entourer, il a toujours le nez pour aller chercher les bonnes personnes. Maintenant, est-ce qu'il est capable de
tout
réaliser, depuis le temps, comme tu disais, sa dernière vraie série, Undercovers, entre parenthèses, c'était un échec. Est-ce que finalement, cette personne... peut nous impressionner, ou est-ce que c'est une nouvelle génération de scénaristes qui doit arriver et qui doit nous faire des bonnes séries? Peut-être qu'il est arrivé aussi au bout de ce qu'il peut faire à la télé, on ne sait pas.
Mais est-ce qu'on a vraiment besoin encore qu'il nous impressionne?
Pas impressionné dans le sens impressionné, juste qu'il fasse quelque chose de surprenant, quelque chose de...
Je vous l'annonce, le reboot de Felicity.
Ça va débouler, on va pas le voir venir.
Ils vont prendre qui? Ils vont prendre qui du coup?
Sur Netflix, ouais.
Et tu vois qui là, faire?
Et ils peuvent reprendre la même actrice et puis 20 ans plus tard, j'exagère. Maintenant qu'il y a eu The Americans qui est passé par là, ça fait hyper chelou de l'avoir retourné à l'université.
Cela dit, Felicity en soi était quand même un tour de force, parce que réussir une série un peu teen drama qui se passe à la fac, ça n'existe pas à part Felicity, donc c'était quand même bien joué.
Et surtout, s'il refait plus de série, son pote va plus trouver de boulot.
Ses potes.
Tu parles de Greg
Grunberg, qui est absolument dans tous ses projets. Donc,
on l'a vu dans Volkswagen d'ailleurs.
Il n'est pas dans 22-11-63, je crois.
Il est peut-être au quatrième plan derrière un journal.
En tout cas, mais il n'est pas forcément dans ses prods.
Voilà.
En tout cas, on attend de lui, je pense qu'à la télé, il y a quelque chose qui nous surprenne et qui nous accroche en même temps.
Mais justement, une série qui nous a pas accroché, parce que je vais revenir sur cette série, ça nous a pas accroché parce que c'était un ratage complet, mais Undercovers, pour ce que c'était un peu en avance sur son temps.
Le problème, c'est que scénaristiquement, c'était juste un vieux remake d'Alias, quoi.
Oui.
C'est-à-dire qu'à peu de choses près, ils nous ressortaient la même histoire, des types qui essayent de rester tranquillou dans la vie, genre « Non, moi ça va, tranquille, je fais rien dans la vie de spécial. Enfin, » Ils étaient quoi, traiteurs, c'est ça, hein. Et puis, je prends des avions et je vais à Paris, c'est-à-dire un truc où il y a des drapeaux français partout, un type qui joue de l'accordéon et un gars qui passe un câble.
Et la Tour Eiffel à côté de l'Arc de Triomphe.
Et normalement, c'est comme Alias sans décalage horaire. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de problème de décalage horaire.
Non,
elle
ça
est
va
toujours
très bien.
Toute fraîche, toute
non,
bien.
Et puis surtout, ils ont des vols qui durent à peu près 2 minutes 30.
Voilà.
Donc, toutes les séries font ça. Ils avaient calculé sur 24 heures chrono qu'il y avait un vol en hélicoptère où il allait de Mexico City à la Californie, je sais pas quoi, et que techniquement, il avait pris que 1 heure. Enfin, des trucs complètement ridicules. Mais bon, ça fait partie du plaisir de la série télé. Mais c'est Undercovers. Je pense, je vais être optimiste en même temps, vu ce qui s'est passé il y a 10 jours aux États-Unis, il y a difficile de raison d'être optimiste, mais c'est pas parce qu'il a mis deux noirs que ça a pas marché, quoi. Faut pas.
Ah non, voilà. Non, c'est pas ce que je dis.
Moi, je pense que c'est surtout qu'il y avait rien scénaristiquement, quoi.
C'est
voilà.
Chiant, non
oui.
C'était déjà vu. C'est là où ce qu'on disait Marion, c'est que c'est des trucs déjà vus, certains.
C'est vrai que bon, je vais me faire mon propre troll, mais il y a des choses.
Ok, si tu veux, vas-y.
Il y a des choses qui ont été déjà vues qu'il a refaites bien, genre Fringe.
C'était du X-Files.
Un héritier à la X-Files, et pour autant, elle a réussi cette série à avoir un ton personnel, et du coup, pour moi, c'était une de ses réussites.
Je suis d'accord. Les personnages. Donc, moi, je pense que ce qui marque chez Abraham, c'est que quoi qu'il raconte, que ce soit Alias, que ce soit Fringe, que ce soit Lost, c'est des personnages, vraiment où on s'intéresse plus. À la fin, Alias, ses enquêtes, on en a un peu. J'exagère, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est ses relations.
Plus pour ça, quand on
c'est ses relations, c'est ça. Fringe, c'est une histoire de famille et de paternité magique, quoi.
Un bémol pour Fringe, est-ce que ça a pas trouvé son identité après le départ de J.J. Abrams?
Il
est parti à quel moment?
Voilà.
Il est parti assez rapidement, fin de saison 1 ou début de saison 2.
Mais j'avoue que personnellement, moi, c'est la saison 3 ma préférée.
Non, mais moi, je trouve que la série se tient d'un seul bloc, donc je vois pas.
Bien sûr, mais au début, c'est disons que c'est moins familial.
Bah non, c'est un procédural au début, la première saison.
Oui, bien sûr, c'est très X-Files. Comme on l'a dit et comme vient de le dire Marion, mais est-ce que ça n'a pas trouvé justement son identité quand il est parti?
Le problème, c'est qu'il est parti au moment où la série avait plus ou moins confirmé qu'elle fonctionnait, et là, du coup, ils peuvent se lâcher. Le problème de faire du procedural comme dans les premiers épisodes et de faire du Monster of the Week, etc., c'est que c'est nécessaire pour attraper le public. Si t'attaques sur un truc avec un arc narratif majeur d'entrée de jeu, où t'es obligé de voir 10 épisodes pour pas piger ce qui se passe, ça fonctionne pas. Donc,
est-ce que c'est parce qu'il est plus facile?
Oui,
mais
c'est ce qui se passe avec Westworld.
Joss Whedon avec The Lost, il avait commencé par faire du procedural, quoi. Quand tu es sur une grosse chaîne de network, il y a quelques années, il fallait faire un peu de procédural avant d'aller dans le feuilletonnant. Maintenant, peut-être que justement, on peut rentrer dans le feuilletonnant dès le début, parce que les gens en ont ras le bol des procédural.
Sauf que, cite-moi, alors le problème, c'est que j'ai pas la réponse moi-même, hein, mais est-ce qu'il y a par exemple en ce moment une nouveauté qui est un truc un peu d'action, etc., qui attaque direct avec des arcs narratifs larges? Est-ce qu'on parlait de Timeless et ces choses-là?
Designated Survivor, quoi.
Ouais.
Oui,
Designated Survivor.
Il y a une enquête, mais c'est tout.
Mais c'est une histoire.
Ouais. Tu peux pas ne pas louper un épisode.
Ça s'appuie plus sur 24 heures chrono, peut-être. Tu vas faire un point de vue de la narration, je veux dire. Ou tout ce qui s'est passé avec des séries comme Quantico et qu'on sort depuis, quoi. Mais qui sont des séries avec des arches, enfin, avant toute chose. Mais sur du fantastique,
etc. Moi, je pense à How to Get Away with Murder, mais après, c'est pas fantastique, mais c'est dans la même veine.
Non, mais par exemple, The Exorcist, clairement, c'est avec un arc. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc par semaine, si je dis pas de
bêtises. Voilà. Non, c'est pas par semaine. Non.
Donc, ça, c'est possible de. Mais bon, en même temps, comme c'est un remake.
Espèce de suite.
C'est une continuité de quelque chose. les gens ont des.
C'est la continuité d'Evil Dead.
Connaissent Spoiler. Le truc, donc c'est pas la peine de les faire rentrer dans l'univers de manière.
Mais ce qui est intéressant, on le compare souvent à Whedon, parce qu'ils sont. Je pense qu'ils ont à peu près le même âge.
Parce que c'est deux geeks qui ont peut-être 2 ans d'écart, voilà. Je crois. J'ai regardé cet après, il y en a un qui est né en 64.
Mais est-ce qu'on les compare pas pour les personnages féminins puissants?
Non, c'est parce qu'ils ont pris le contrôle du monde et d'Hollywood.
Moment, bah, oui.
Ils représentent les geeks qui sont arrivés.
C'est vrai.
Un Star Wars chez les Avengers. Alors
sauf que.
À la télé avec des super.
Sauf que je crois que Abraham s'est porté sur beaucoup plus de projets. Ce que disait Pierre tout à l'heure, à un moment, il a mis son nom partout. Ce qu'a pas fait Whedon du tout.
Joss Whedon, c'est un artiste.
Whedon a été beaucoup plus sage.
Oui, mais bon, d'accord.
Whedon a été beaucoup plus sage. Après, c'est vrai que il a été aussi, oui, beaucoup plus discret. Enfin, il a beau, bon, ok, les Avengers, on fait plus discret.
Enfin, avant. Mais à la télé. Avant les Avengers, on avait, ça fait. Alors, je parlais de grand public parce que je pense que les fans le suivaient, mais il y a un moment où on entendait beaucoup moins parler de Whedon. Il y a eu un petit.
Il s'est quand même ramassé, Whedon. Il a fait Dollars quand même.
Mais Dollars,
c'était un échec
public, pas forcément créatif.
Oui, enfin, il y avait des hauts et des bas quand même. Hein.
C'est nul.
Les trolls qui balancent comme ça, c'est nul. Alors c'est pas dans la discussion, bout. Non, mais après, là où ils sont pas comparables, c'est que J.J. Abrams, c'est un espèce de super producteur. Joss Whedon, la seule série qu'il a pas vraiment chapeauté vraiment de très près, c'est Agents of S.H.I.E.L.D. Elle est très inégale, cette série. Voilà. Et du coup, Joss Whedon a dû produire peut-être une vingtaine de projets, alors que J.J. Abrams en est à peut-être 60.
Est-ce qu'on voit pas trop?
Qui
J.J. Abrams.
Trop et pas assez.
Le problème, c'est que
c'est ça le truc. On le voit trop et pas assez. C'est ça.
Le problème,
en fait,
c'est qu'à la fois, il sort des projets. Enfin, tu à partir du moment où tu prends Star Wars, évidemment que t'es surexposé de toute façon.
Je parle pas de Star Wars. Je parle à la télévision.
Bah
Westworld.
Regarde, il vient d'arriver sur des trucs où systématiquement il a été surexposé aussi.
Mais Westworld, il fait rien. Il y a juste son nom en générique.
Il est juste.
Sauf qu'on en parle de lui.
Les premières interviews qu'on a de, enfin,
c'est lui
sur le retour de la série, c'était lui, quoi.
Bien sûr.
Mais il disait tout à l'heure, les journalistes, premier gros titre, c'est pour faire vendre.
Mais bien sûr, parce que voilà, c'est pour faire vendre. Mais il a pas son mot à dire sur l'histoire. Il a pas son mot à dire.
Je veux bien, mais il a sans doute son mot à dire. Mais je pense que comme c'est un gars avec Nolan qui connaît déjà bien et tout, je pense qu'il lui laisse quand même mener sa barque. Mais il a certainement son mot à dire.
Je veux bien, parce que ça veut dire qu'il fait dire qu'il a rien à dire sur Westworld. Alors pourquoi il est au générique?
Non, il a quand même été sans doute engagé au début sur le pitch. Il a dû voir les scripts. Donner un avis.
Pour qu'il produise ça,
choses,
c'est parce que on lui a offert quelque chose. On lui a offert une bonne histoire,
de l'argent.
Mais
tu crois vraiment qu'il a besoin de ça? Enfin, sérieusement, quand tu vois les projets
qu'il en a besoin, je sais pas, mais qu'il en prend, j'en suis sûr.
Non, mais je suis sûr qu'il en prend, mais il ferait pas ça si ça, il a autre chose à faire. Si ça l'ennuyait, il irait faire autre chose, quoi.
Je me permets juste de venir 2 secondes.
Bonjour
tout le monde. C'était juste pour dire que ouais, pour moi, par rapport à sur la comparaison Whedon.
Mais c'est encore une fois Whedon aussi.
Oui, bien sûr, mais Whedon, J.J. Abrams, justement, la différence, je suis d'accord avec Marion, c'est Whedon, c'est un artiste, et J.J. Abrams, maintenant, c'est une marque. Ce mec-là a marketisé son nom et sa présence. Il a décidé à un point fou d'être producteur parce que, pour lui, ça permet de d'étendre un espèce d'univers tridimensionnel où il donne le chapeau à plein de gens. C'est vachement intéressant parce qu'il permet à des gens d'écrire et d'apporter un support. Donc, il fait un vrai travail de producteur. C'est super cool, même si c'est souvent des gens qui sont connus quand même, déjà, mais... Bon, il permet à ses potes de travailler, on est content pour eux. Mais du coup, Whedon, c'est un créatif. Il fera pas un truc où dans lequel il sera.
Puis voilà. Il fera bosser sa famille plutôt. Abraham, c'est les copains. Whedon, c'est la famille.
Justement, J.J. Abrams est un génie par rapport au fait que Lost ou Alias, voire même Felicity, a inspiré de nombreuses séries aujourd'hui. On ne peut pas penser à Westworld sans penser à Lost, par exemple, dans une certaine manière, par rapport aux différents mystères ou à la trame. Ou même
en même temps, il y a une série sur deux, on ne peut pas y penser sans penser à Lost.
Voilà.
Surtout quand ça s'approche de la fin, en général. On
c'est ça.
Ressouvenons-nous de Lost.
Mais est-ce que
Dexter.
Est-ce que pour
on
ne
peut
que...
pas penser aux séries sans penser à J.J. Abrams, en vrai.
Voilà. Mais est-ce que c'est un génie en lui-même ou doit-il être bien accompagné?
Moi, je pense que c'est un mec qui sait trouver les gens. C'est-à-dire que la force, et c'est la force d'un producteur, ce que disait Alix, c'est de rassembler une équipe et de savoir que ce mec-là va fonctionner avec ce mec-là. C'est de prendre des acteurs qui n'étaient pas forcément... moi, je pense sur le cast, parce qu'il a forcément un œil sur le cast, même si des fois, c'est raté. Moi, personne à Finterest, ça marche sur le cast. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouve que... Et peut-être que l'idée de prendre Cazaviel et... C'est ça comme ça que ça se
prononce?
Caviezel, pardon, bon bref.
Caviezel.
Jésus, qui était pas, qui était pas l'acteur le plus en vue. Enfin voilà, il y a un moment, il a les idées de Rassan.
C'est un fou furieux.
Bah, rouge,
il est parfait. Oui, mais il est parfait pour ce qui là, le rôle est parfait. Enfin voilà, c'est parfait.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a, il est parfait. Il y a zéro expression quoi.
Mais oui, c'est ça qu'il faut. Enfin, c'est ça qui marche dans la personnalité.
Oui, c'est un peu caricaturé, voilà. Caricaturé parce que quand il peut être drôle, il est très très drôle sans pour autant montrer beaucoup d'émotions.
Et c'est pareil quand tu parlais de Fitzmaurice, quand il part sur une saison, quand t'as casté une équipe complète. Voilà, quand t'as casté une équipe complète de Fringe ou quand t'as casté... Enfin, le cast de Lost, il est quand même très, très réussi. À tel point que des fois, ils ont du mal à faire autre chose derrière, que c'est pas évident pour tout
ils
le monde.
Ils sont toujours mais... Once Upon a Time, après.
Voilà. C'est une méthode. Hein, voilà,
voilà, c'est sur ces mots qu'on se quitte pour ce soir. À l'année prochaine.
Mais voilà, donc, la façon de créer une équipe, de rassembler des gens autour d'une écriture, c'est quand même assez brillant. Et c'est ça, sa force, je pense.
Si je puis me permettre de poursuivre en un mot, en fait, c'est un super producteur.
Oui.
Ça s'appelle être un producteur.
Bah oui, non, mais
c'est le mec qui choisit les projets, bien ou mal, mais en gros, qui a une force de frappe. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus que lui, des mecs comme Mark Gordon, qui ont réussi à lancer pas mal de trucs qui ont marché derrière, qui sont moins visibles. Le truc, c'est qu'en fait, Abrams, techniquement, il est sexy, c'est-à-dire qu'il il a un côté jeune et dynamique, geek, il est dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est un gars qui représente quelque chose.
J'irais, il était dans l'air du temps, maintenant, il faut voir si ce temps, il va être dans l'air du futur, surtout. Parce que l'air du temps, oui, je te dis, c'est lui qui a pris, qui est devenu le maître d'Hollywood dans quelques années. Mais maintenant, on en arrive un peu au terme de ça, à moins qu'ils veulent continuer de faire du Star Wars pendant 20 ans. Et qu'effectivement,
je pense qu'ils veulent, parce qu'il a refilé quand même le bébé à d'autres personnes.
Je pense qu'il a pas envie d'être cantonné juste à ça, en fait. Je pense qu'il a envie de faire d'autres choses.
En tant que, sériephile, spécialiste de série, etc., on s'intéresse surtout aux scénaristes, aux créatifs, c'est eux qu'on vénère. Mais en vrai, J.J. Abrams, ça fait longtemps qu'il a choisi effectivement d'être un super producteur et de plus être un créatif et un scénariste.
Ouais. Est-ce qu'il manque donc, est-ce aujourd'hui qu'il manque
en tout cas, une série, moi, comme Lost, aujourd'hui me manque.
Je me pose souvent une question qui me fait la réponse me fait peur, c'est je me demande si Lost commençait aujourd'hui.
C'est ce que
j'accroche, est-ce que je continuerai?
J'allais y venir.
Oui, je pense qu'elle est propre aux années 2000.
J'ai revu le pilote comme il marche bien.
Alors moi je suis en train de refaire un rewatch des 6 saisons, j'ai fait les 3 saisons là.
T'as pas assez de trucs à voir à mon avis.
Et je
il y a que 400 séries à regarder,
c'est ça. Non mais et je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien, c'est rare d'avoir des séries avec des twists aussi forts, des personnages aussi forts et des histoires aussi bien écrites. Est-ce que
finalement ce que tu évoques, moi ça me donne envie de le voir écrire vraiment de lui. Oui. Parce que finalement, ce qu'on disait, on l'a jamais vu vraiment.
Si je serais intéressé
de
le
voir. Non, mais alors, moi, j'aimerais bien le voir, mais qu'il arrête de faire de la SF.
Qu'il fasse un Felicity.
C'est ce qu'on disait.
Qu'il fasse un truc.
Non, faire de la SF, je prendrais quand même, mais qu'il fasse un truc plus ou moins réaliste, tranquille, simple.
Un V6S un peu. Bah,
quand on y pense, 22-63, quoi qu'on en pense, c'est pas du tout de la science-fiction. Enfin, il y a un élément de science-fiction.
Mais il écrit pas.
Ouais. Mais après, ça devient juste une romance.
Il y a un roman, là.
C'est une romance.
Mais il n'écrit pas.
Il n'écrit pas.
C'est ça.
Ce que je veux dire, c'est que.
Oui.
Oui, voilà. Non, il n'a rien créé, on est d'accord. Non, d'accord, c'est même pas sa série, il est juste producteur. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être une voix. Il dit lui-même, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Lindelof dit la même chose. Enfin, d'ailleurs, peut-être qu'il y a un milliard de scénaristes américains qui disent ça, que son modèle, c'est Stephen King, presque plus que Steven Spielberg, en tout cas au pire égalité. Et King, c'est l'incarnation du mec qui écrit des histoires avec des bêtes de concepts, mais on s'en fout, quoi. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est les personnages. Et peut-être que Abrams devrait se souvenir de cette passion qu'il a pour King et écrire une série qui soit dans. par pitié, pas un remake de Stephen King, mais...
Évitons un Under the Dome 2.0.
Voilà. Mais une série qui soit... Qu'ils se souviennent que Lost, c'était génial, les twists et tout. Hein. Moi, j'ai adoré. Mais que Lost, ça marchait surtout parce que les personnages étaient super. Quoi.
Exactement.
Oui, c'est une série de personnages avant tout.
Soit capable de faire autre chose que des séries avec concept, justement. Aussi, parce que Felicity, ça date d'il y a quand même un sacré moment. Et enfin,
oh, on voit bien que...
Mais les séries comme Felicity marchent plus forcément aujourd'hui non plus, en fait.
En plus, oui, c'est clairement. Ouais, ouais.
Mais justement, est-ce que, pour en revenir à Lost, est-ce qu'il y a une série aujourd'hui à laquelle on peut penser qui marche autant sur les personnages, qui marche autant sur... sur l'écriture qui marche autant sur l'histoire.
Mais Lost, il y a eu des tonnes de séries qui se sont, je me souviens, pendant plusieurs années après la fin de Lost, on faisait
le Lost titre, de
le potentiel
The Event.
Successeur de Lost. Le nombre de séries qu'il y a comme ça,
mais c'est ça.
Flash Forward,
même Revolution, voilà, ils disaient que c'était le nouveau Lost.
C'était il y a quelques années comme ça où il y a eu plein de séries.
Time, c'est une série de personnages.
C'est juste une grave erreur de casting, c'est ça le problème.
De personnages de Disney, non ?
Il fallait pas l'inviter. Sinon,
mais du coup, est-ce qu'il y a une série aujourd'hui qui est aussi clivante que Lost?
Lost, ça n'a pas été clivant jusqu'à la fin.
Voilà, mais justement, par la fin.
Non, Lost a clivé saison 3 déjà. Ouais. Moi, le nombre de gens que je connais avec qui je m'embrouille.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, j'arrête
3, j'ai arrêté à la saison 3 parce que.
Je comprends plus rien.
Ouais, voilà.
En fait, les séries, justement, à chaque fois, on dit on va pas refaire du Lost parce que ils ont pas envie de perdre les téléspectateurs.
Non, mais c'est vrai.
Est-ce que Lost, c'était beaucoup de questions sans réponse au début. On se rend compte qu'il y a finalement, enfin, en regardant la série, je me rends compte qu'il y a beaucoup de réponses au final.
Mais
parce que je fais un binge un peu. Quand on attend à chaque fois une semaine pour voir un épisode et voir plus quant à les hiatus ou les pauses entre les saisons. Voilà,
c'est compliqué à regarder. Lost, de toute façon, appartient à une époque qui n'existera plus jamais. Il pouvait y avoir des tonnes de gens devant leur télé en train de regarder ça. Oui. Maintenant, on a des publics de niche, on a trois fois plus de séries qu'avant. Et du coup, des séries clivantes, il y en a. Mais de la puissance de Lost, de la puissance populaire de Lost, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'on a les plateformes, on a les chaînes câblées, les networks, elles intéressent de moins en moins les séries fil. Donc Lost appartient à une époque révolue.
Est-ce qu'on pourra mettre autant de gens dans la télé sur ce type de projet? C'est pas sûr.
Ah bah si, Walking Dead ou Game of Thrones, mais là, on est sur d'autres.
C'est aussi clivant. Vous avez demandé s'il y avait une série qui clivait comme ça et tout. J'ai failli balancer. On parle de The Walking Dead ou on parle pas?
Oui, là, bah, clairement, cette série est
dans un autre style parce que du coup, c'est pas les mystères qui font que Walking Dead clive. Non, ça marche pas, ça comme verbe.
Et The Walking Dead, il y a un.
Vas-y, c'est pas grave. Allez, entre nous, c'est pas grave.
The Walking Dead n'est pas une série de personnages en soi, je pense.
Ça devait. Ça devrait.
Ça devrait.
Mais c'est ça, ça devrait, mais elle ne l'est pas.
C'est une série 100% de personnages. Mais c'est
rien d'autre. Rien d'autre.
Merci Tom.
Voilà, non, mais c'est pour donner un exemple.
Justement, je vous révèle que J.J. Abrams est effectivement producteur de The Walking Dead.
Non, mais le tour de force.
Un zombie,
une série avec plein de mystères et récemment Westworld pour le coup. Hein,
ouais, mais c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure.
Chaque épisode crée des nouvelles questions.
Voilà, le tour de force de Lost, ça a été l'effervescence sur internet, sur les fans, sur les forums.
Ça commence aussi. Hein.
Mais Westworld a des théories comme Lost, mais n'est pas une série de personnages. Je suis désolée, mais les personnages sont chiants. Cet épisode, je suis désolée, dans Lost, il y avait déjà des personnages très forts.
C'était une formule aussi. Il y avait 24 épisodes de prévu aussi. Moi, je suis d'accord dans le sens où je suis pas capable de citer tous les personnages de Westworld.
Mais c'est normal, la série a commencé il y a 2 mois et demi.
On connaîtra les personnages. Mais il y a un côté où
il y a que cet épisode et on regarde.
Au début de Lost, tous les personnages, je pouvais pas les citer.
Oui, on regarde.
On se fait chier dans Westworld contrairement à Lost, moi je trouve.
Le problème c'est pas de retenir tous les noms des personnages, c'est qu'on regarde 200 autres séries à côté. Voilà, donc c'est un des points.
Par contre, je m'intéresse à leur destin et c'est aussi le.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que Westworld est le nouveau Lost?
Non.
Par rapport,
si on veut qu'il soit annulé au bout de 2 saisons, allons-y, c'est parti.
Par rapport aux théories, par rapport aux réactions des fans sur les réseaux sociaux, par rapport à la construction, par rapport à plein de choses.
Elle a des choses qu'on peut comparer à Lost, choses qu'on peut comparer à Battlestar Galactica. Elle prend des choses Westworld. On peut dire que c'est une sorte d'héritière, on va dire. Mais je dirais pas que c'est vraiment. On peut pas dire que c'est le successeur direct. Il y a pas de successeur à Lost. Comme il y a pas de successeur à Breaking Bad, comme il y a pas de successeur à Mad Men, il y en aura jamais. C'est des séries chefs-d'œuvre et on en a une, on est heureux, on la chérit, on aimerait la revoir, mais en vrai, il faut apprécier. Non, puis il faut apprécier ça. Mais
combien
de temps il tourne? Mais par exemple, Leftover, c'était beaucoup plus une descendante de Lost, évidemment, c'est le même créateur, donc voilà. Mais il y a beaucoup, quand j'ai vu The Leftover, j'ai retrouvé beaucoup de choses de Lost dans le mystère, dans l'ambiance,
c'est Lindelof.
Mais c'est évidemment Lindelof. Alors je trouve que Lost avait un côté justement. très fun, très quelque part même parfois c'était pas drôle, mais il y avait un côté léger, puis le côté plein de rebondissements. Leftovers, c'est moins léger.
Il y a de l'humour, ah, si, a de l'humour dans The Leftovers. Ouais, il y a de l'humour. Oui, oui. Ah si, 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 moi, j'ai revu la
pas
saison
que,
2.
Chiant, ouais, mais pas, alors, a, pas que.
C'est léger,
alors,
c'est léger quand déjà, même, Pierre. C'est pas le thème principal de Leftovers.
Non, mais il y a du rire qui est parfois de l'humour noir et tout, mais par exemple, le
Leftovers, meilleur comédien.
Le personnage du pasteur,
Christopher
Eccleston, a vraiment des scènes qui sont quasi comiques, voilà, mais qui sont désespérantes d'humour.
Ah non, mais son premier épisode, il est pas comique.
Mais dans la deuxième saison.
Ce n'est pas le sujet. Voilà. Mais c'était une parenthèse intéressante pour voir à quel point Lost a complètement marqué.
Mais comme dit Marion, dans son époque.
Voilà. Oui, ça marque encore aujourd'hui l'univers des séries.
Si, elle marque encore.
Mais, oui, mais je veux dire qu'elle est propre.
Elle est propre à son époque, ouais, voilà. Ça on
mais
est d'accord.
Donc J.J. Abrams, c'est un immense nom de l'univers des séries.
Et
mais...
en plus, son nom est raccourci, donc t'imagines si on le dit entier.
Tu le connais ?
Jeffrey Jacob.
Jeffrey Jacob.
Mais combien de chefs-d'œuvre ?
Ah, Jacob, ça vient de là.
Combien de chefs-d'œuvre ?
Tu veux un chiffre précis ?
Est-ce qu'il a fait tant de chefs-d'œuvre que ça ?
Excuse, je me permettrais de dire que Lost, c'est une grande série. Je ne sais pas si le mot chef-d'œuvre est pas un tout petit peu fort.
Voilà, grande série.
Il y a un avant et un après quand même. Donc c'est...
Ouais, mais bon, Mad Men, chef-d'œuvre. Battlestar Galactica, ouais, chef-d'œuvre. Six Feet Under, The Wire, ok. Lost, pour moi, c'est une grande série grand public. Je ne sais pas si le mot chef-d'œuvre.
C'est parce que c'est grand public que ça t'embête de dire chef-d'œuvre.
Pas du tout.
Franchement, moi, en la revoyant là, elle est.
Attends, en face de mon bureau, il n'y a qu'un truc, c'est un poster de Lost. Donc s'il te plaît, j'adore Lost. Mais je me demande si ces hauts, ces bas, ces hésitations, ces ratés en font pas une super bonne série. Je sais pas si le mot chef-d'œuvre est risqué sur Lost, de mon point de vue.
Mais justement, donc s'il n'a pas vraiment fait de chef-d'œuvre, parce qu'il y a quand même des ratés dans Fringe, il y a quand même des ratés dans Alias, il y a quand même des.
Toujours, mais
des
dans quelle partout. Série il n'y a pas de ratés
non, voilà, mais pourquoi c'est un aussi gros nom.
Non,
mais bien sûr,
je suis d'accord.
Bien sûr.
The Wire, évidemment, c'est plus simple.
Et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que J.J. Abrams soit sur des productions, soit sur des. Souvent un schéma narratif très efficace, il y a une forme d'efficacité. Peut-être que les séries qu'il fait vont pas se lâcher suffisamment ou partir suffisamment dans un coin différent pour avoir ce statut de chef-d'œuvre. Il y a un côté, ça va pas être assez particulier presque. C'est parfois trop, ce qu'on peut lui reprocher, je suis en train de chercher mon mot, trop construit, trop.
Réfléchi.
Non, justement, c'est le côté trop calibré parfois. Pour que
Lost,
ça devienne...
Lost, c'était pas calibré, par
il
exemple.
A presque fait mieux que des chefs-d'œuvre, si je puis me rattraper d'avoir blessé autant de gens en disant que Lost n'était pas un chef-d'œuvre. Il a fait mieux que des chefs-d'œuvre. Il a fait des grands divertissements. Et c'est encore en plus rare. Oui. C'est-à-dire que c'est plus rare. Les chefs-d'œuvre, maintenant, avec le câble, on en a plein. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle chefs-d'œuvre, mais pouvoir rectifier.
On va faire un débat là-dessus.
The Leftovers. C'est-à-dire que des grandes séries d'auteurs avec des gens qui vont jusqu'au bout de leur vision et qui se contre-tapent du public, entre guillemets, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire je vais raconter mon histoire et jusqu'au bout, on en a de plus en plus. En revanche, des œuvres. Qui ont soin de nous divertir, de nous emmener dans
et
une narration et intelligemment et de manière originale, il y en a presque plus, c'est extrêmement rare. Et c'est pour ça que je pense que aussi bien Whedon que Abraham sont des gens qui ont été essentiels dans l'histoire des séries en général, j'allais dire récente maintenant, l'histoire des séries en général, c'est que c'est des gens qui ont créé des grands divertissements intelligents qui font réfléchir sur notre époque, qui réfléchissent d'un point de vue narratif, sur les personnages, plein de choses, là où c'est vrai qu'on en a très trop peu de ces séries-là, et c'est pour ça que Abraham, c'est un type essentiel dans l'histoire de la télévision.
Et je vais peut-être faire une comparaison ou un peu tirée par les cheveux. Est-ce que c'est pour ça que This Is Us marche ? Est-ce que c'est une des héritières de Lost ?
Ouh.
Sur, non, sur les personnages.
Sur le côté série chorale, on peut
série
dire
chorale, les flashbacks. Les mystères ou les cliffhangers.
Pour moi, c'est pas un vrai flashback, Vicisa, je suis désolée. Hein.
C'est deux lignes temporelles.
Si. C'était How I Met Your Mother, la comédie Lost, hein, si je puis
permettre. Moi, j'ai beaucoup pensé, sur les premières saisons d'How I Met Your Mother, je trouvais les schémas narratifs très lostiens dans les allers-retours.
Mais par contre, This Is Us, je pense à cette même ambition qui était celle de J.J. Abrams, mais qui est celle de plein de gens qui font de la télé. Mais que d'être populaire, c'est brillamment écrit, il y a un vrai travail, c'est pas cynique. Je crois que This Is Us n'est pas cynique et c'est ce qui fait qu'on l'aime en fait. Or que des séries comme ça, il y en a plein qui sont cyniques, qui sont calculés pour faire pleurer mes mères. Et en l'occurrence, This Is Us, je pense qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent.
Non mais après, le truc c'est que Lost, avec tout ce qu'ils ont inventé au niveau narratif, Lost, ça s'est répercuté sur les séries toutes les années suivantes. Et encore aujourd'hui, on a dans tous les domaines, même dans la sitcom, on a eu des séries qui étaient à la narration déconstruite.
The Affair, par exemple.
The Affair, même dans le drama, on a eu How to Get Away with Murder, pareil. Du coup, This Is Us, de ce côté-là, oui, il s'inspire vaguement de Lost, mais je pense que le succès de This Is Us, c'est justement de ne pas être cynique, et c'est une vraie série doudou, un espèce de Love Actually, en version série, qui veut nous parler des sentiments et de ce que ça fait que d'être en vie, après, de manière très aussi positive. Et du coup, elle se met plutôt, pour moi, en opposition à tous règne des anti-héros, This Is Us.
On me demande de rappeler vos prénoms. Donc, la fille en bleu, c'est Elodie, le sion de nos écrans. Derrière, c'est Marion de Binge. Après, c'est Stéphane de Melty, Pierre Langlais de Télérama et Laurent de Laurent.
Moi, j'ai un nom de famille, vous rendez compte.
Oui, mais c'est une marque, Pierre Langlais. Oui, c'est comme JJ.
D'ailleurs, j'attends mon argent. Là. Je crois que je bosse gratos ce soir.
Mais du coup, on va revenir un peu pour conclure. On veut JJ Abrams sur une série familiale, par exemple. Mais est-ce que Lost est une série familiale?
Pas trop, non. Je trouve que c'est une série de personnages, mais pas de famille. Il y en a un peu.
Parce qu'au
final,
la fin.
Ça parle de beaucoup de choses.
Qui parle de famille ou qui s'adresse
Fringe,
à la famille?
Fringe, c'est une série familiale.
Qui parle de famille.
Oui et non, quand même, parce qu'ils ont tous des gros problèmes avec leur famille, les personnages.
Ils ont tous des daddy issues, hein, je tiens à le dire.
Justement, c'est un truc.
C'est plus une série de filiation qu'une série de famille, peut-être.
Non. Fringe est une série familiale, une pure série familiale dans son ensemble.
D'un côté, Lost a un côté série familiale parce que finalement, ils forment une famille de rescapés. Quoi.
C'est vrai. Ou même à la fin, quand ils se retrouvent.
Oui.
Non, mais ils se forment une nouvelle famille.
Ils se retrouvent pas en famille une fois qu'ils.
Ils se retrouvent pas en famille, mais ils
c'est un point
les
commun,
liens,
c'est un point
les
commun avec
les
créer. Leftovers. Enfin, si
certains sont de la famille.
Mais, qui est aussi une série de comment on se regroupe, comment live together.
Avec des problèmes de famille aussi.
C'est pour ça que j'ai envie de. C'est pour ça que j'ai envie de parler de This Is Us, parce que c'est une famille qui se regroupe aussi.
Ouf! Ça y est.
Non, pardon. Surtout, à la rigueur, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que la fin de Lost, pour le coup, pourrait faire penser à This Is Us, mais c'est pour ça que moi, elle m'avait énormément déçue, parce que je l'avais trouvée hyper cucu et larmoyante.
D'accord, donc,
et pas du tout
Marion,
dans le délire de.
Quitte ce débat, s'il te plaît.
Et pas du tout dans tout le délire de Lost, en fait. Donc.
T'as pleuré, toi? C'est un bon signe pour savoir si c'est des séries familiales.
À la fin de Lost,
oui.
Mais il pleure sur tout, c'est pas possible.
Alors moi, je pleure rarement.
J'ai pleuré si moi, j'ai pleuré.
Deck, j'ai ouais, moi aussi, ouais. Moi, j'ai
non,
pleuré
cette scène de Jack qui est exactement l'inverse du pilote.
Non, c'est pas le plus. Non, moi, je pleure rarement, mais cette fin de Lost, elle m'a fait chialer.
Mais c'est parce qu'on a passé 6 ans avec des personnages qui sont devenus des gens.
On en revient aux séries d'émotions et de personnages.
C'est ça, une série d'émotions. Au final, c'est une série d'émotions.
Mais c'est très marrant, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est de mélanger un espèce de super concept, des trucs très compliqués, je prends Fringe, des univers parallèles, des voyages dans le temps, de machin, et de finir sur un truc très émouvant entre un père et son fils, quoi. Voilà, il y a ce jeu-là qui est très rare aujourd'hui, quoi.
C'est de toute façon, généralement, ce qu'on retient des fins, c'est plutôt leurs émotions que leurs concepts. Hein. Je parlais avec... merde, ça fait vraiment prétention, c'est pas grave. J'ai fait une interview de Damien Lindelof il y a pas longtemps, et il me parlait de la fin de Battlestar Galactica, parce qu'il est méga fan de Battlestar Galactica. Il me disait, oui, les gens ont critiqué, etc. Mais moi, je me souviens surtout d'un truc. Ah, mais ça fait un énorme spoiler, ça, merde. Bon, il y a deux personnages qui finissent ensemble d'une façon ou d'une autre. Il a dit ça m'a bouleversé. Je trouvais ça très beau. Et c'est vrai que même si après, t'inventes un twist, un machin, un tout, c'est pas grave si finalement, émotionnellement, t'as amené les personnages au bout de leur histoire, quoi.
D'accord.
Pour le coup, la fin de Battlestar Galactica, elle est beaucoup moins pourrie que celle de Lost. Hein.
Ouais. Oui, mais elle est contestée quand même.
Oui,
elle est contestée, mais bon.
Alors
bon,
on va.
Ben moi, m'a plus frustré quand même que celle de Lost, hein, mais personnellement. Ben ouais, je sais.
La fin de Lost n'est.
Ça va se régler après. Oui.
Alors, lui, il pleure tout le temps. Lui. Il n'a pas pleuré.
Et la fin des Sopranos, est-ce que tu as pleuré?
N'en parlons même pas. J'ai pleuré quand il y avait David Chase dans la salle quand on a regardé la fin des Sopranos au mois d'avril. Donc bon, voilà, c'est pour dire.
Ok, bah c'est l'heure du clap final de ce débat. Merci
merci
d'avoir participé à ce débat passionnant sur JJ Abrams.